Chers amis, bonjour. Dans ces moments difficiles, nous avons plus que jamais besoin de la force que nous donne la parole de Dieu. Et celle-ci ne nous déçoit pas. Lorsque nous laissons Dieu nous parler, il vient nous donner tout le réconfort, les lumières dont nous avons besoin sur notre chemin. Alors aujourd'hui, vendredi, comme hier, nous cheminons avec les apôtres après la mort et la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas parce qu'ils ont vécu avec Jésus ou qu'ils ont vu même Jésus ressuscité que tout est devenu facile. C'est presque le contraire. Et nous restons aujourd'hui avec saint Paul. Hier, nous avons vu les difficultés qu'il a rencontrées au cours de son ministère, notamment autour de la crise en Galatie. Nous avons vu aussi ses difficultés avec les autres apôtres. Eh bien, je voudrais aujourd'hui que nous lisions plutôt la fin de la vie de saint Paul, si on peut parler ainsi, puisque les Actes des apôtres s'arrêtent avant la mort de Paul, avec sa captivité à Rome. Alors les Actes des apôtres, dans leur première partie, nous parlent surtout de Pierre. Par contre, à partir du chapitre 12, c'est Paul qui devient l'acteur principal. Après sa conversion sur le chemin de Damas, Paul entreprend de nombreux voyages dans l'Empire romain et il fonde de multiples communautés. Ses succès missionnaires, il faut cependant le reconnaître, n'émergent qu'au milieu de nombreuses difficultés et surtout de fréquents échecs. Et nous en avons eu un petit aperçu hier. Alors une étape déterminante pour Paul et pour ses compagnons de mission, c'est le moment où ils sont passés en Europe, suite non seulement à une vision, et puis à différentes interventions de l'Esprit-Saint. Jusque-là, en effet, la mission était restée en Asie mineure, d'où d'ailleurs Paul était originaire. Si Paul avait bénéficié d'une vision et de fortes motions de l'Esprit-Saint, on peut imaginer que ça voulait dire que le Seigneur préparait la voie pour la mission en Europe. Et donc peut-être qu'on pouvait s'attendre à plus de succès en Europe. Alors Paul et ses compagnons traversent la mer Égée en partant de Troas et ils arrivent à Philippe, qui est une grande colonie romaine. Assez vite, une femme juive, Lydie, se convertit et reçoit le baptême. Mais très vite aussi, les choses tournent mal suite à un incident. Paul, en effet, a exorcisé une servante qui rapportait de grands bénéfices à ses maîtres. Paul et Silas sont dénoncés. Et je lis dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 22 à 24. « Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. » Alors, Paul et Silas continuent cependant, nous disent les Actes des Apôtres, à chanter les louanges de Dieu. Et puis voilà que pendant la nuit, il y a un violent tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrent. À ce moment-là, le geôlier pense que les prisonniers se sont évadés et il se prépare à se donner la mort, ce qui est le châtiment qu'il aurait subi pour avoir failli à sa mission. Mais Paul l'en empêche. Le geôlier alors se convertit et se fait baptiser avec toute sa famille. Finalement, Paul et Silas sont relaxés, d'autant que les Philippiens découvrent que Paul est citoyen romain et que par conséquent, il était interdit de lui donner la bastonnade. Paul continuera ses voyages et la communauté de Corinthe deviendra une des belles communautés chrétiennes, deviendra aussi un soutien inconditionnel de Paul qui lui écrit une très belle lettre, on l'a eu dans la liturgie il y a quelques jours. Alors ce n'est pas la dernière fois que Paul sera emprisonné. Après son troisième voyage, Paul se rend aussi à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, dans un climat très tendu. De nombreux juifs voient d'un très mauvais œil la mission de Paul auprès des païens. Et même dans la communauté chrétienne, le ministère de Paul n'est pas bien accepté. Les esprits s'échauffent et Paul est accusé, injustement, d'avoir introduit Tite, un païen, dans le temple. Il s'ensuit une émeute durant laquelle le chef de la garde doit intervenir pour éviter à Paul de se faire lyncher. Paul comparaît ensuite devant le Sanhédrin, devant le gouverneur romain, devant le roi Agrippa, et finalement, il est envoyé à Rome en captivité pour être jugé par le tribunal de l'empereur. Et puis, alors c'est peut-être justement pendant cette captivité, ou peut-être encore une autre, on ne sait pas exactement, que Paul écrit aux Corinthiens. Nous avons un Paul plus âgé, qui a, en plus de ses nombreux voyages, a traversé tout un paquet d'épreuves. Et dans les dernières lignes de cette deuxième lettre aux Corinthiens, il écrit, chapitre 12, versets 7 à 10, « J'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul vit donc l'expérience de la prison à plusieurs reprises. Et en cela, on peut dire qu'il vit l'expérience qui a déjà été vécue par les autres apôtres. La semaine dernière, nous avions vu que Pierre et Jean, mais aussi les autres apôtres, avaient été mis deux fois en prison. Dans un autre passage, dans le chapitre 12 des Actes des apôtres, on voit encore Pierre qui est mis en prison et délivré miraculeusement par un ange pendant la nuit. Et d'ailleurs, dans les Actes, c'est pratiquement la dernière fois que Pierre intervient. Eh bien, Paul, il vit la même chose. La prison, et surtout si vous avez les pieds coincés dans des morceaux de bois, c'est l'impossibilité de faire quoi que ce soit, si ce n'est peut-être de prier. Quelle misère pour Paul et ses compagnons. Leur but, c'était d'évangéliser l'Europe. Les voilà réduits à l'inaction au fond de la prison. Et cette expérience, au fond, c'est celle de Jésus lui-même. Jésus nous sauve non seulement en étant arrêté, mais lui est allé jusqu'à la crucifixion. Et lorsqu'il est sur la croix, comme au fond d'une prison, il n'est plus capable de rien, si ce n'est de prier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou bien « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a été réduit à la plus stricte impuissance. Et c'est au fond le mouvement général qu'on voit dans tous les Actes des apôtres. La Pentecôte, au tout début des Actes, elle a peut-être donné aux apôtres une grande force. L'Esprit Saint leur a rendu du courage, la capacité à se faire comprendre dans différentes langues. Mais la fécondité du ministère des apôtres n'a jamais été liée à leur performance physique ou intellectuelle, à leur capacité oratoire ou à la mise en place de stratégies complexes, même si certainement les apôtres ont su utiliser ces talents que Dieu leur avait donnés. Au contraire, le chemin de la mission les a conduits à un véritable abandon. Paul, de la même manière que Pierre, termine sa carrière dans les Actes, en prison, à ne plus pouvoir rien faire. Et c'est ce que Paul vient exprimer dans la maturité de ses paroles qu'il a adressées aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On ne sait pas très bien à quoi Paul fait allusion lorsqu'il évoquait cette écharde dans la chair. Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un défaut physique? Est-ce que c'est même peut-être une tentation récurrente? Toujours est-il que Paul fait très clairement l'expérience de sa faiblesse, de son impuissance à agir par lui-même en dehors de la grâce de Dieu. Même plus que ça, Paul fait l'expérience que la grâce de Dieu agit beaucoup plus dans ses moments de faiblesse que lorsqu'il croit pouvoir s'appuyer sur ses propres forces. Par exemple, quand il fait un beau discours à Athènes devant l'Aréopage, ça n'a aucun succès. Au contraire, lorsqu'il prie au fond de sa prison à Philippe, c'est le début d'une belle communauté chrétienne dans cette ville de Philippe. Vous voyez, c'est un vrai enjeu pour nous, que peut-être nous pouvons vivre d'une manière particulière pendant ce temps difficile. Vous voyez, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, nous sommes conduits ces jours-ci à reprendre conscience, d'une manière plus forte, peut-être plus douloureuse aussi, de notre faiblesse. Ou bien peut-être simplement nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions parce que les circonstances nous en empêchent. Nous nous retrouvons, toute proportion gardée bien sûr, un peu comme en prison. Eh bien, ça peut être une bonne nouvelle. Nous pourrons, si nous acceptons cette faiblesse, sans nous y complaire bien sûr, mais nous pourrons laisser la grâce de Dieu traverser notre faiblesse. Et peut-être que c'est justement le moment de renoncer à agir par nos propres forces, le moment de laisser Dieu agir en nous et par nous. Alors aujourd'hui, je peux, comme Paul, déposer toute ma faiblesse, toute mon impuissance, à la fois celle du moment et puis celle que je porte de manière habituelle, devant le Seigneur. Face à ces faiblesses, j'évite de me crisper ou de me battre d'une manière inutile, mais je peux dire au Seigneur, « Seigneur, toi tu sais que je suis faible, et moi je sais que tu peux tout. » Belle journée avec Dieu.